matin, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque jour, de 13h à 14h, nous mettons en avant des Françaises et des Français qui ont des idées, qui osent. Et ensemble, on écoute le monde changer. Bienvenue dans la France bouge. Nous sommes à Poitiers, au palais des congrès du Futuroscope. La première université école entreprise se tient ici, à Poitiers, pendant 2 jours. Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous.
Un invité exceptionnel aujourd'hui dans la France bouge.
Oui, cet invité exceptionnel, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. On vit un paradoxe, chômage élevé et manque de main-d'œuvre historique. Comment mieux orienter les jeunes le plus tôt possible? Comment faire découvrir les métiers qui recrutent? Comment nous donner envie peut-être d'être plus mobiles? Comment imaginer mieux les métiers de demain? Jean-Michel Blanquer est avec nous jusqu'à 14h.
À la une, en effet, comment faire en sorte de concilier entreprise et école? Comment faciliter la voie de l'apprentissage et surtout être fier d'être apprenti? Le délégué de la Fédération de la distribution des matériaux de construction va tout faire pour que ces métiers du bâtiment deviennent plus attractifs grâce à une convention signée avec le ministère d'Éducation.
Alors là, c'est l'une des entreprises qui fait sûrement le plus rêver les jeunes diplômés. Si je vous dis L'Oréal, vous allez me dire « Waouh, comment un grand groupe doit se battre pour faire venir les meilleurs et surtout sortir de ses propres habitudes pour aller chercher les jeunes les plus éloignés de l'emploi aux compétences parfois insoupçonnées. »
Les autrement dit, ça vous dit quelque chose?
Non.
C'est un jeu de société pour apprendre par le jeu. Objectif, préparer les élèves et les étudiants à s'imprégner du monde de l'entreprise. C'est le pitch du jour des Trophées de l'Avenir Europe 1, La France bouge. Rendez-vous à 13h45 pour les découvrir. Et bienvenue dans La France bouge. Allez, c'est parti. Vous pouvez nous suivre sur Europe1.fr, Twitter ou encore Instagram. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Et on est donc à quelques encablures du parc du Futuroscope. On voit quelques attractions là depuis ce palais des congrès de Poitiers où sont présents à des dizaines d'intervenants, des PDG, des DRH, des élus. Il y a des stands partout pour que tout le monde se rencontre pour parler formation, insertion professionnelle dans ce contexte de la relance. Une émission exceptionnellement enregistrée hier soir à Poitiers.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Jean-Michel Blanquer, si nous sommes à Poitiers pour cette première université école entreprise, c'est parce qu'il y a urgence?
Il est de toute façon indispensable et urgent d'avoir un lien entre l'école et l'entreprise, tout simplement pour le bénéfice de nos élèves. Vous avez souligné tout à l'heure un paradoxe qui est insoutenable, même si on le trouve parfois dans d'autres pays aussi, qui est qu'en ce moment, il y a beaucoup d'emplois à pourvoir et malheureusement pas assez de personnes pour prendre ces emplois. Alors même que d'un autre côté, on a des jeunes qui aimeraient s'insérer dans la vie professionnelle et qui ne sont pas sur ces emplois. Ça renvoie évidemment à des enjeux d'orientation, à des enjeux parfois de représentation des métiers, de connaissance des métiers, et puis à des enjeux de relations entre les jeunes et l'entreprise, et donc via l'école évidemment d'abord.
Donc l'urgence, c'est l'orientation?
L'orientation est un des aspects, pas le seul, mais c'est évidemment le premier. Alors on n'a pas attendu aujourd'hui pour s'y atteler, bien sûr. Beaucoup de choses ont été faites depuis des années. Mais ces dernières années, on a fait quelques réformes importantes, d'ailleurs souvent en lien avec le ministère du Travail et avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Et on l'a fait aussi avec les régions de France, puisque les régions ont une compétence en matière d'orientation avec nous, Éducation nationale, puisqu'elles sont au plus près du terrain, elles connaissent le tissu économique, elles connaissent les filières de formation. Et donc, même si tout ceci a été un peu freiné par l'épidémie et une série de rencontres n'ont pas pu avoir lieu, désormais l'objectif c'est qu'il y ait environ 50 heures par an dédiées à cela dans une coopération État-Région pour que les métiers notamment soient présentés aux élèves dès la classe de 4e de manière très concrète, de manière très visible et de façon à ce qu'ils puissent mieux connaître le monde de l'entreprise.
Alors je crois que c'est 40 heures par an à partir de la 4e, 54 heures par an à partir de la 2e, mais oui. De façon très concrète, en 4e, c'est-à-dire quoi? C'est 40 heures par an. C'est les fameux stages de 3e qu'on est beaucoup à avoir connus.
Non, ça, en plus du stage de 3e, qui est un élément qui a été un réel progrès, même si c'est évidemment peu dans le temps, mais ça, c'est souvent un petit choc psychologique positif pour ceux qui le vivent, et c'est très bien. Ça a changé des choses dans la société française. Ça s'ajoute à cela, puisque dès la classe de 4e, il s'agit de présenter les métiers devant les enfants. Alors ça peut prendre des formes différentes selon les collèges et selon les...
Ah oui, là c'est l'entreprise qui entre dans l'école, c'est pas l'élève qui va aller pendant ses 40 heures en formation d'une certaine
manière. Non, c'est plutôt des présentations, mais ça peut se passer dans l'enceinte du collège ou ça peut se passer à l'extérieur avec toute une série d'acteurs et de professionnels des différents métiers et puis des professionnels de l'orientation, de façon à ce que les élèves aient une présentation aussi vivante et concrète que possible des métiers. Parfois, ça prend par exemple la forme de ce qu'on a appelé les printemps de l'orientation en mars dernier, où l'ONICEP avait préparé avec les régions et les établissements une semaine de présentation des métiers dans les établissements.
Donc une fois que les élèves ont eu leur présentation des métiers, après arrive la troisième, il faut qu'ils fassent leur stage de troisième. On le sait, c'est pas toujours évident quand les parents, quand papa et maman ont un bon réseau, en général ça se passe bien, on va chez les copains qui ont un bon métier, mais quand ils n'en ont pas, est-ce que là aussi, vu que c'est très difficile pour les élèves de trouver un stage, est-ce que là aussi vous allez agir ?
Oui, c'est un sujet très important que vous évoquez là et très significatif parce que c'est finalement le premier moment où ce genre de problème se présente dans la vie. Est-ce que j'ai un réseau familial ou pas ? Le président de la République lui-même était d'ailleurs attaché à cette question. Il a organisé dès le début de son mandat une réunion à l'Élysée avec les principaux dirigeants d'entreprises de France, notamment du CAC 40, pour leur demander de fournir des stages. C'est comme ça qu'on a créé une base de données d'environ 30 000 offres de stages par an pour les élèves de troisième, des milieux défavorisés. Et on va accentuer désormais cela en décentralisant au maximum cet enjeu, toujours avec les régions d'ailleurs, et en faisant en sorte notamment que les collèges, eux aussi, aient des relations avec les entreprises plus systématiques pour avoir des offres de stage pour tous les élèves de France.
Mais soyons concrets, on va accentuer cela de façon concrète. Ça veut dire quoi ? C'est que Veolia, L'Oréal qui sera tout à l'heure avec nous, vous allez leur dire, donnez chacun de vos stages disponibles à chaque établissement scolaire dans votre coin ?
Oui, on prend le sujet en sandwich, si je puis dire. Hein. D'une part, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire des conventions avec les entreprises, comme celles qu'on a signées aujourd'hui. Vous avez donné l'exemple de Veolia et de L'Oréal, par exemple. Mais ça peut être des grandes entreprises, mais aussi des PME, bien sûr. Donc on signe avec eux, à l'échelle en général des rectorats, de façon à ce qu'ils aient une offre et qu'ils aient du volontarisme. Et puis c'est aussi par l'autre côté que l'on prend le sujet, en demandant au collège et au lycée d'avoir cette approche systématique de partenariat avec les entreprises pour cela.
Est-ce que les enseignants, nous allons les y aider. Mais les enseignants vont-ils jouer le jeu dans tout cela ?
Parce que souvent l'entreprise c'est un gros mot.
De moins en moins. Et c'est là qu'on doit considérer qu'une page est tournée sur cette question. Les mentalités ont évolué. L'école.
Petit à petit.
Petit à petit, mais.
Regardez, la FSU a pas voulu venir, je crois, à ces rencontres parce que justement elle a dit, oulala, c'est le grand capital.
D'autres syndicats ont dit autre chose et après chacun est libre dans notre démocratie de penser ce qu'il veut, mais je dirais que les élèves votent avec leurs pieds sur ces sujets, c'est-à-dire que voilà, ils ont besoin de cela pour les stages de troisième, et puis il n'y a rien de tabou dans cette question. En revanche, ce qui est très important, c'est que on puisse avec les professeurs d'abord leur donner à eux aussi des expériences en entreprise. C'est pourquoi j'ai annoncé que par exemple tous les professeurs de lycée professionnel auraient droit à une immersion en entreprise au moins une fois tous les 5 ans.
Oui, parce que eux aussi parfois ils méconnaissent le monde de l'entreprise, les enseignants.
Alors, fort heureusement, dans les lycées professionnels en général, ils connaissent bien le monde de l'entreprise. Parfois certains en viennent.
Mais dans la voie généraliste aussi.
Dans la voie générale. Générale. Il y a de tout. Vous savez que vous avez de plus en plus de gens aussi qui, vers l'âge de 40 ans, présentent les concours de l'éducation nationale ou deviennent contractuels parce qu'ils ont envie d'avoir une deuxième carrière dans leur vie et que la fonction de professeur fait sens et les attire beaucoup. Ça, c'est une très bonne chose. Souvent, donc, ils ont une connaissance du monde de l'entreprise. Et puis, nous allons systématiser davantage des expériences en entreprise, notamment des étudiants qui se destinent à la fonction de professeur. Là encore, parce que ça ouvre des fenêtres. C'est un peu comme les séjours européens ou internationaux. C'est une façon d'ouvrir les fenêtres des futurs professeurs.
Vous prenez l'exemple des profs qui pourraient aller un peu plus en entreprise, notamment du côté des lycées techniques. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre aussi beaucoup de moyens pour que les machines soient au goût du jour, les techniques soient au goût du jour dans les lycées professionnels ? Parce que bien souvent, les jeunes se forment sur du matériel qui est obsolète et quand ils arrivent en entreprise, leur compétence est déjà obsolète.
Alors c'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup de progrès. Hein. C'est la compétence.
Il y a de la marge encore.
Oui, mais c'est une compétence des régions que de mettre ces équipements et je dois saluer le travail qui a souvent été fait, parfois pas complètement, mais en tout cas souvent été fait pour avoir des choses assez modernes, à telle enseigne que parfois, vous avez même le phénomène inverse, c'est-à-dire que l'équipement est tellement bien dans le lycée que vous avez des entreprises, et ça c'est un élément de partenariat, qui viennent dans le lycée pour en quelque sorte partager les machines avec les élèves, et ça c'est un exemple typique de ce qu'on doit réussir à faire, puisque là c'est gagnant-gagnant une fois de plus. Mais c'est vrai, il faut être à la hauteur des équipements, et la numérisation est évidemment un enjeu majeur dans ce contexte. Par exemple, les technologies 3D permettent souvent d'avoir un effet de simulation des machines très utile pour nos élèves.
On va continuer à parler de cette première école, cette première université école entreprise avec vous, Jean-Michel Blanquer. Hein, 40 heures par an d'expérience ou de présentation de l'entreprise pour rapprocher ce monde de l'école et ce monde de l'entreprise que les élèves méconnaissent souvent. Vous restez avec nous, Jean-Michel Blanquer, jusqu'à 14 heures.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on est à Poitiers aujourd'hui depuis les premières rencontres école-entreprise. On pourrait se dire enfin ces premières rencontres. Invité exceptionnel aujourd'hui de La France Bouge, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, pour justement faire le point sur ce que l'on peut mieux faire et faire entrer un petit peu plus le monde de l'entreprise à l'école pour essayer de former le plus tôt possible les jeunes aux métiers qui recrutent.
Alors on va aller dans un secteur d'activité qui ne sait plus trop à quel sens se vouer. Je vais vous parler des professionnels du bâtiment. Les pénuries de matériaux perdurent, les délais de livraison augmentent et ils font face à des difficultés de recrutement. Alors comment attirer plus de jeunes dans ces métiers ? Bonjour Laurent Martin-Saint-Léon.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction, la FDMC. On le sait depuis plusieurs semaines, il y a une pénurie de matériel, de tout, augmentation des coûts, pénurie de main-d'œuvre, plus que jamais, le secteur doit recruter. C'est une branche qui aujourd'hui a 100 000 salariés. Si vous êtes aujourd'hui avec nous dans la France Bouge, c'est parce que vous misez sur l'apprentissage, c'est la clé.
L'apprentissage, c'est la clé, et puis aussi les diplômes, en effet. Monsieur le ministre l'a cité tout à l'heure dans son discours, il a parlé de la coloration des diplômes. On a participé à la rénovation de plusieurs diplômes, notamment le BTS Solutions et Commercialisation. Et donc, on s'est lancé à corps perdu dans l'apprentissage au service de nos adhérents. C'est allé plus loin, on s'est rapproché de la mission Éducation Emploi Formation avec Béatrice de Lavalette au ministère de l'Éducation nationale. Et mon président Franck Bernigaud a signé une convention de partenariat avec monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer. Et on a impliqué notre opérateur de compétences, Constructis, puisque vous savez que la loi sur la formation professionnelle à mobiliser les opérateurs de compétences, qui étaient les anciens OPCA, passer une fonction de contribution à une fonction d'assistance des entreprises. Et aujourd'hui, on agit avec notre OPCO et avec l'éducation nationale et l'enseignement supérieur.
Alors ça donne quoi concrètement pour les jeunes ? Comment vous allez les faire venir avec toutes ces conventions signées ?
Alors déjà, on a un déficit de notoriété qu'on doit absolument combler. On est dans la distribution des produits du bâtiment, on commercialise les produits du bâtiment, donc on est dans deux mondes parallèles, le commerce et le bâtiment. Et nous, ce qu'on cherche, c'est à montrer que notre métier est attractif. C'est un métier qui a des valeurs très fortes, c'est un métier de solidarité, c'est un métier de convivialité. On accompagne le client, mais en plus, on est au cœur de tous les carrefours. On est au cœur de la transition écologique, ce qui est fondamental, c'est un enjeu fondamental, le développement durable, monsieur le ministre l'a cité tout à l'heure. On est au cœur aussi du monde de la construction. Les Français s'intéressent de plus en plus à leur habitat, et donc on recrute.
Alors pourquoi vous n'êtes pas assez attractif, vous payez pas assez cher ?
Alors, on a revalorisé le barème de nos indemnités justement d'apprentis pour attirer justement encore plus d'apprentis en lien avec les partenaires sociaux. Je crois qu'on est surtout sur un problème, je vous l'ai dit, de notoriété, un problème d'image. Et donc c'est ça qu'on est venu combler avec l'éducation nationale.
Et c'est pour ça que votre profil nous intéressait. Pouvoir entrer dans les écoles, pouvoir venir présenter vos métiers dès la quatrième, dès la troisième, c'est quelque chose qui, pour vous, est vraiment un élément qui peut pour demain changer la donne ?
C'est un élément clé. Avec la convention de partenariat qu'on a signée, on aura aussi une plateforme spécifique qui sera dédiée aux élèves de 3e. Et on va présenter à tous les élèves de 3e nos métiers. On va être présent évidemment dans les établissements scolaires, dans les journées de parrainage, sur les salons. On lance une marque propre qui va s'appeler Direct Distributeur de Matériaux de Construction Compétences d'Avenir. Et cette marque-là, on va la diffuser sur l'ensemble du territoire en mobilisant nos chefs d'entreprise. J'étais ce matin présent à un salon sur l'emploi. Les chefs d'entreprise étaient dans les allées avec leurs offres d'emploi, leurs offres de stage, leurs offres de contrat en alternance, et harponner les jeunes pour leur proposer.
Et donc vous allez faire pareil de votre côté dans votre fédération. Ça veut dire quoi ? Vous allez aller dans les écoles, vous allez leur expliquer le métier de cariste par exemple ?
Ah, je ne vais pas leur expliquer le métier de cariste parce que certains le connaissent déjà mieux que moi, mais je vais surtout leur expliquer l'intégralité de nos métiers. On a ciblé des métiers en tension chez nous, dans le cadre du dispositif Transco qui a été lancé par le gouvernement. Donc on a justement le vendeur conseil qui est un métier aussi en tension, le métier de cariste, bien entendu, le métier magasinier, le métier de chauffeur-livreur. Tout ça s'amène chez nous à des métiers de chef d'agence. La promotion interne est très forte dans nos métiers et c'est un enjeu dont je pense les jeunes doivent se saisir aujourd'hui.
Mais ça signifie que vous allez leur expliquer les métiers et en même temps vous allez pouvoir leur montrer qu'il y a peut-être des perspectives aussi de carrière parce qu'il ne suffit pas aussi de s'arrêter au métier, les jeunes ont besoin de se projeter.
Absolument. Perspective de carrière et aussi, encore une fois, le bâtiment souffre d'un déficit d'image. Mais nous, on est encore une fois dans le commerce et dans le bâtiment.
Mais même quand on est dans le bâtiment, on y est bien aussi.
Bien sûr qu'on est bien dans le bâtiment et c'est ce qu'on va montrer. On va montrer que dans le cadre de nos relations avec nos entrepreneurs et artisans, dans ce qu'on vend, dans les produits qu'on vend justement, on est prêt à initier des relations spécifiques sans ce milieu de cordialité, de convivialité encore et toujours.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h aujourd'hui. Ce qu'on entend là, c'est des métiers pour lesquels nous n'avons pas pensé qu'il serait si utile il y a de ça juste quelques années, parce que ce monde du bâtiment, comment vous vous expliquez qu'on n'a pas su former des menuisiers, des carreleurs, des peintres, des plombiers ? C'était si compliqué que ça du côté de l'éducation nationale de dire tiens, on va peut-être en avoir besoin en 2021 ?
Alors, il y a évidemment de l'offre de formation sur ces sujets. Et ce qu'on constate parfois, c'est que ces offres ne sont pas complètement remplies. Autrement dit, vous avez parfois des formations, par exemple, avec 20 places, et puis vous avez 17 élèves, ou même des ratios plus faibles que cela. Donc, ça rejoint ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le fait que, d'abord et avant tout, il y a un sujet d'attractivité et donc de connaissance des métiers, d'où ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire une présentation plus concrète des métiers. Puis souvent, les élèves pensent que c'est des métiers...
Est-ce que la présentation, ça suffit? Parce que, disons-le clairement, souvent dans ces métiers, on se dit, bah non, toi, si t'es bon à l'école, tu vas faire une formation générale, tu vas aller loin, tu vas faire de grandes études. Alors que pour ces métiers, on n'a pas besoin d'aller à la fac et on gagnera peut-être beaucoup plus d'argent que beaucoup de gens qui seront à côté à aller à la fac. Est-ce qu'on doit aussi revoir la façon dont, tout simplement, on vend l'avenir de ces métiers?
Oui, ce qui passe notamment par la notion de passerelle. On est rentré dans un monde où la formation est tout au long de la vie, donc les choses ne s'arrêtent pas à 20 ans ou à 25 ans, elles se continuent toute la vie par la formation. D'ailleurs, quand on fait la voie professionnelle, on peut parfois continuer dans l'enseignement supérieur. Souvent, d'ailleurs, maintenant, les élèves qui ont un bac pro vont jusqu'au BTS, et c'est souvent ce niveau bac plus 2 qui est un niveau pertinent sur le plan technologique. Et puis, vous avez aussi toute une série de perspectives. En Allemagne, vous avez beaucoup de PDG qui sont issus de la voie professionnelle, précisément parce qu'ils sont passés par des passerelles. Vous pouvez aujourd'hui devenir ingénieur par la voie pro. Donc, montrer qu'il y a des passerelles, que ce n'est pas des voies fermées, mais c'est des voies qui vous donnent des compétences souvent assez immédiatement opérationnelles, qui n'interdisent aucune évolution ensuite. Mais souvent, surtout, vous allez vous épanouir dans le métier en question. Par exemple, une des choses que l'on doit promouvoir dans le même cadre, c'est l'esprit d'entreprise. Dans la voie professionnelle, apprendre davantage encore à créer une entreprise, à devenir artisan, à créer des entreprises dans des domaines technologiques nouveaux, et donc des start-up. Tout ceci va être de plus en plus possible et de plus en plus encouragé. Quand vous voyez ce qu'on a fait avec les campus des métiers et des qualifications, ce que j'ai appelé les Harvard du pro, il y en a 80 en France aujourd'hui. Et ces 80 campus correspondent aussi à la stratégie que nous avons travaillée avec le ministère de l'économie de réindustrialisation de la France. Concrètement, ça veut dire, par exemple, un campus de la lumière à Lyon, parce qu'on a besoin d'électriciens et de tous les métiers qui vont autour des lumières, des campus de la batterie électrique, des campus de l'aéronautique, des campus des énergies renouvelables, tout ceci.
Donc ça veut dire qu'il va falloir se rapprocher France, des régions, de là où il y a, des jobs à pourvoir, du coup, organiser des formations en fonction de l'endroit où on se trouve.
Alors, il y a parfois des formations de proximité, parfois il faut s'éloigner, d'où l'importance des internats, d'où l'importance de l'effet campus, parfois il faut savoir se déplacer. Je vous donnerai un exemple très simple, un lycée que je connais dans les Alpes, qui fait une formation de charpentier moniteur de ski. C'est très original. Les gens qui font ça ont un double métier qui va leur permettre de réussir très bien leur vie professionnelle et de bien gagner leur vie. Eh bien, ce lycée professionnel a encore des places dans son internat. Il va être content de voir que je fais sa publicité. Mais aujourd'hui, on a en fait beaucoup d'opportunités. Quand je suis là, je me dis, il y a peut-être un petit Breton ou un petit
Poitevin,
nous sommes à Poitiers, qui, s'il savait que ça existe, irait. Et donc, on a là encore un travail d'information et c'est ça que nous sommes venus un peu pousser pour une nouvelle étape ici à Poitiers.
Un travail d'information important. Hein. Merci Laurent Martin de Saint-Léon. Peut-être pour utiliser des influenceurs aussi pour promouvoir vos métiers, pourquoi pas.
Le programme dans la convention de partenariat qui est signé. On sera présent sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. On a l'intention de passer partout.
Ce sera bien visé. Je rappelle que vous êtes le délégué général de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction. Merci d'être venu nous voir.
Et Jean-Michel Blanquer, vous êtes encore un peu au tableau avec nous. Jusqu'à 14h, vous êtes notre grand témoin.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Elle bouge, elle est à Poitiers, cette France bouge. Aujourd'hui avec Elisabeth, on est heureux, hein, comme chaque jour, de vous accueillir de 13h à 14h autour de la table de la France bouge, installée aujourd'hui au Palais des Congrès de Poitiers. Pourquoi donc? Parce que c'est là que se tiennent les toutes premières rencontres école. Entreprise, des rencontres organisées par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui est notre grand témoin aujourd'hui. Alors on l'entend depuis le début de l'émission, il y a un manque de manœuvre totalement historique en France. Est-ce que c'est pour ça que le revenu d'engagement voulu par le président de la République va être beaucoup moins ambitieux que prévu? Il va concerner 500 à 600 000 jeunes qui sont très éloignés de l'emploi. On pensait au démarrage que ce serait un peu plus d'un million. Il va être basé sur ce qui existe déjà, la garantie jeune, un poil amélioré. À quoi ça sert finalement?
Votre description est un peu minimaliste. Non, le revenu d'engagement va être une innovation très importante parce que justement, il va cibler des jeunes qui peut-être sont aujourd'hui parmi les plus éloignés de l'emploi ou de l'employabilité, et par une série d'engagements que l'on crée, on va les amener vers un chemin d'employabilité. Donc au contraire, on se concentre sur l'enjeu, et c'est très important. Maintenant, c'est par une batterie de facteurs que nous réussirons à ce qu'il y ait une meilleure coïncidence, correspondance entre les compétences des jeunes, leurs désirs et leurs envies aussi, et puis ce que proposent les entreprises. C'est aussi.
C'est quand même plus minimaliste que ce qui était à un moment envisagé.
C'est plus concentré. C'est pas la même chose. Et je dirais aussi que ce qui est très important aujourd'hui, c'est la valorisation de la valeur travail. On a un phénomène mondial de ce point de vue-là, qui est que l'épidémie a pu créer de nouvelles habitudes, une nouvelle distanciation aussi par rapport à la vie du travail. Aujourd'hui, on doit montrer que la valeur travail est plus essentielle que jamais dans le type de société dans lesquelles nous sommes entrés, certes ultra technologique, certes favorisant parfois le travail à distance, mais où ce qui est irremplaçable, c'est le travail de l'être humain. Et ce travail de l'être humain, c'est pas seulement pour gagner sa vie, c'est aussi pour s'épanouir, se réaliser, voir les autres. Et donc c'est aussi ce message-là que nous devons passer à la jeunesse, et le revenu d'engagement fait partie des messages qui véhiculent cela.
Jean-Michel Blanquer, vous évoquiez tout à l'heure les campus prestigieux, hein, ce que vous surnommez les Harvard du pro. Il y en a 80. Est-ce que ça signifie aujourd'hui que l'apprentissage doit passer par encore plus d'investissements? Est-ce que vous allez en faire davantage?
Oui, bien sûr. Vous savez, nous marchons sur deux pieds qui sont l'enseignement professionnel dans les lycées et l'apprentissage. Et d'ailleurs, l'apprentissage n'est pas seulement dans ce qu'on appelle les CFA, les centres de formation par l'apprentissage, mais aussi dans les lycées professionnels. Et une des choses que l'on a faites en 2018 avec la loi portée par la ministre du Travail, mais à laquelle je coopérais, ça a été justement d'abolir les murs qui existaient entre monde de l'apprentissage et monde du lycée pro, pour dire qu'un élève pouvait tout à fait passer de l'un à l'autre et qu'on devait développer l'apprentissage aussi en lycée professionnel. Donc on avance sur deux pieds. D'une part, l'apprentissage, et vous savez, le plan Un jeune, une solution en particulier a permis d'aller loin en la matière. Et on est en train
de battre un jeune, un mentor aussi là maintenant.
Et maintenant, nous développons Un jeune, un mentor, c'est-à-dire que nous appelons tout un chacun, toute personne qui est dans la vie active, qui a de l'expérience, de pouvoir être le mentor d'un jeune. Moi-même, par exemple, je deviens le mentor d'une jeune fille dans un lycée professionnel, dans le domaine industriel, parce que justement, je veux promouvoir l'image de l'engagement des filles dans les filières industrielles.
Alors, comment ça se passe,
alors, ça va commencer.
Ah, elle est sûre d'avoir un job quand même avec vous au final. Là.
J'espère. On va voir si je suis un bon mentor. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que nous prenions tous nos responsabilités personnellement pour être capables d'aider les jeunes. Et on sait bien qu'aider les jeunes, c'est non seulement évidemment leur transmettre des connaissances et des compétences, c'est évident, et c'est ce que font les lycées professionnels, mais c'est aussi le savoir-être, avoir confiance en soi, entendre des personnes plus expérimentées, la logique de compagnonnage en quelque sorte, qui doit devenir une réalité de la société française. Vous savez, on considère souvent qu'on est trop individualiste, et je crois que c'est un peu vrai. On doit développer l'esprit d'équipe, l'esprit de solidarité, et l'esprit de solidarité intergénérationnelle. Et on va prendre beaucoup d'initiatives pour l'intergénérationnel, dans tous les domaines, hein, par exemple avec des écoles maternelles près des EHPAD, des choses comme ça, mais aussi avec le mentorat, c'est-à-dire ce compagnonnage des plus expérimentés vis-à-vis des moins expérimentés.
Mais là, quand on vous entend depuis le début de l'émission, on pourrait se dire qu'on était loin d'avoir tout essayé pour amener ces jeunes un peu plus directement au marché de l'emploi. Pourquoi si tardivement? C'est l'élection présidentielle dans 6-7 mois. Alors, il y a eu le Covid, ça aurait dû être fait plus tôt, mais pourquoi ça arrive maintenant, si tard? Alors, vous pourriez me dire, tant mieux, au moins ça arrive. Mais non, pourquoi?
Alors, nous n'avons pas attendu 2021. Bien sûr, je vous ai parlé de la loi de 2018, mais il y a aussi la transformation de la voie professionnelle que j'ai commencé dès mon arrivée en 2017, avec un travail.
Force est de constater qu'on a 1 million de jeunes qui aujourd'hui, ce qu'on appelle les NEETs, hein, qui n'ont ni d'emploi ni de formation, qui sont loin du marché de l'emploi, alors qu'on a des 300, 400 000, 500 000 offres non pourvues aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, il y a deux catégories de sujets dans ce que vous venez de dire. Il y a, d'une part, la question du décrochage scolaire. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que nous diminuons le décrochage scolaire année après année. Il y a 10 ans, la France était le mauvais élève de l'Europe en matière de NEETS, justement, et de décrochage scolaire. Aujourd'hui, nous sommes plutôt le bon élève. Les autres pays regardent comment nous avons réussi à diminuer. Mais il en reste trop, bien entendu. Autour de 100 000 par an, c'est évidemment trop. Mais en tout cas, nous sommes en progrès, parce que nous savons mieux repérer les décrocheurs, leur proposer quelque chose, en collaborant entre toutes les organisations, comme les missions locales, par exemple, et les lycées professionnels, pour proposer quelque chose de personnalisé à ceux qui ont décroché. Et puis, il y a un deuxième sujet dans ce que vous dites, qui est comment les jeunes, toutes catégories confondues, peuvent être plus attirés vers les endroits où il y a de l'emploi. Et donc, on retrouve le sujet de la connaissance des métiers.
Des territoires.
Et de la connaissance des territoires, de la mobilité aussi, parfois géographique. Mmh. Et ceci passe très souvent par des étapes de transition. Vous avez parlé du revenu d'engagement, c'est fait pour être une transition. On a fait beaucoup de choses au travers du service civique aussi, pour amener des jeunes à avoir une expérience d'engagement pour l'intérêt général. Et très souvent, ils sont embauchés après ça, parce qu'ils ont eu cette expérience d'engagement. Donc, encore une fois, il faut agir sur plusieurs leviers à la fois, et c'est ce que nous faisons.
Allez, on va voir un autre exemple d'une belle entreprise française, Glamour, la culture d'entreprise très forte, c'est vrai, qui elle aussi se mobilise pour trouver des solutions, aider les jeunes à s'orienter et surtout à trouver du travail. Bonjour Eva Azoulay.
Bonjour.
Vous êtes la vice-présidente des ressources humaines en charge du recrutement international du groupe L'Oréal et vous lancez un plan. Ce plan s'intitule L'Oréal for Youth, la jeunesse. Sur 5 ans, il va durer pour les étudiants. Il est dédié aux diplômés d'âgés de moins de 30 ans. Et le but, c'est de leur offrir des emplois, des CDD, des CDI, des jobs, des stages en alternance, de tout. On a l'impression que c'est un plan extraordinaire. On a l'impression qu'on rentre chez vous et on est sûr d'avoir quelque chose à la fin.
Oui, on est très fiers. Et sur la question de la jeunesse, vous savez, je pense qu'on a la chance de pas démarrer de zéro. On fait partie de ces entreprises qui, je crois, ont une longue tradition de recruter, de former beaucoup de jeunes. 60% des recrutements chez L'Oréal ont moins de 30 ans. Donc, on a quand même un certain savoir-faire, je dirais, à la base. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais eu jusque-là un plan formalisé autour de l'emploi des jeunes. Exactement.
Et puis aussi ambitieux. Moi, j'ai lu que l'objectif, c'est 25 000 recrutements dans le monde ou en France ?
25 000 opportunités professionnelles, et je vais revenir là-dessus. Et c'est vrai que l'année dernière, ça nous a beaucoup, on s'est beaucoup trituré l'esprit, parce que je vais vous donner un exemple très concret. L'année dernière, on était très fiers chez L'Oréal d'avoir maintenu nos programmes pour les jeunes. Malgré la crise, programme d'apprentissage, etc. Alors que, bon, c'était pas le cas de toutes les entreprises. Donc on était très fiers. En parallèle, quand on a regardé nos chiffres, l'année dernière, en 2020, on a reçu 40% de plus de candidatures de stage chez L'Oréal. Alors que, effectivement, on a maintenu le même nombre, mais on a reçu 40% de plus de candidatures. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut être fier finalement de faire comme d'habitude, ou est-ce que vraiment c'est pas le moment d'aller beaucoup plus loin ?
Et donc là, vous avez dit, on va aller plus loin.
Exactement.
Donc on a créé ce programme international. Donc là où se trouve L'Oréal, on peut adhérer à ce programme.
Dans tous les pays où L'Oréal est présent, on lance L'Oréal for Youth, donc en France L'Oréal pour la jeunesse, où il y a, si vous voulez, très simplement deux piliers, un pilier emploi, un pilier employabilité. Donc sur l'emploi, c'est concrètement s'engager sur augmenter de 30% nos opportunités professionnelles pour les jeunes de moins de 30 ans. Alors effectivement, vous l'avez dit, on parle de tout type d'opportunités professionnelles. Ça va du CDI, du CDD, au stage, en passant par les apprentissages, les stages de troisième, les jobs étudiants, les VIE, etc. Parce que toutes ces expériences correspondent à des besoins, en fait, pour les jeunes, qu'on soit collégien, étudiant.
Vous irez présenter L'Oréal au quatrième ?
Alors, je suis ravie d'apprendre ça. Et d'ailleurs, il y a une conviction derrière ce plan, c'est que tout se joue très très tôt, en fait, et bien avant la recherche du premier emploi. Donc, il faut qu'on soit très très en amont, le plus en amont possible, pour justement expliquer dans les collèges les métiers et le monde de l'entreprise.
Mais il y a un mot très important que vous avez utilisé, c'est employabilité. Ça se joue très tôt, mais quand on a raté le démarrage, il faut réussir à les récupérer.
Absolument.
Ce qui est aussi important, c'est que des groupes comme vous, là encore, on va être très honnête, d'habitude, s'il n'y a pas le bon diplôme, la bonne école, le bon truc, vous ne regardez pas le CV. Est-ce que vous allez changer là-dessus ?
Absolument. C'est une réalité. Ce volet de l'employabilité, il nous tient beaucoup à cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller mettre en place des actions extrêmement concrètes pour essayer d'équiper les jeunes sur des compétences que peut-être ils apprennent pas très bien à l'école ou pas très bien pendant leurs études, mais que nous, grandes entreprises, on a cruellement besoin. Donc là, on s'est centré sur des compétences. On a parlé beaucoup de ce qu'on appelle les soft skills, tout ce qui est autour de la communication.
Les qualités humaines,
les relations interpersonnelles, l'esprit d'équipe, vous en avez parlé, monsieur le ministre. Ça, c'est très important et ça nous manque.
Donc aujourd'hui, ce que vous nous dites, si on est complètement, on vient de la restauration, on en a ras le bol, on veut changer de vie.
On peut aller chez L'Oréal.
On dépose une candidature chez L'Oréal, vous allez la regarder.
Alors,
attention, on est capable de tester.
Ah bah, ça, je peux vous dire qu'on regarde tout.
Pas des emplois
de
la restauration.
Non, il faut les laisser.
Sinon, oui.
Mais quand je vais vous donner des exemples concrets d'actions d'employabilité, on va beaucoup tourner autour de l'accès à de la formation, le mentorat, on en a beaucoup parlé.
Ça casse beaucoup les codes, l'image qu'on a de L'Oréal, où avant L'Oréal, c'était on sortait des trois grandes écoles, HEC, SEC, ESCP, et on postulait. Là, vous êtes beaucoup plus ouvert.
Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de légendes urbaines aussi autour de ces entreprises. Je vais vous donner un chiffre très simple. En France, on recrute dans près de 150 écoles et universités. Donc je crois qu'on s'est tout dit. Évidemment, on va avoir des liens particuliers avec certaines institutions parce qu'on a le devoir aussi d'être proche des étudiants, d'être proche des professeurs. Mais on recrute dans énormément d'écoles et d'universités en France.
L'Oréal For You, c'est 25 000 opportunités professionnelles, c'est ce que vous nous avez dit, Eva Azoulay. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente des ressources humaines en charge du recrutement international au sein du groupe L'Oréal.
Alors attention, Jean-Michel Blanquin, vous avez changé de casquette parce qu'on va vous demander de conseiller et d'accompagner justement un entrepreneur qui se lance. Vous êtes prêt ?
Prêt.
Prêt ? Eh bien, restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est parti pour les trophées de l'avenir Europe 1, la France bouge. On est toujours depuis ce palais des congrès de Poitiers pour ces toutes premières rencontres université entre école et le monde de l'entreprise. Et on va bien évidemment s'intéresser quand même à nos trophées tout de suite. Et aujourd'hui, c'est pas facile pour celui qui va devoir candidater puisque c'est le ministre de l'Éducation qui va apporter son commentaire, Jean-Michel Blanquer, qui est notre témoin exceptionnel jusqu'à 14h. Et bien évidemment, on va retrouver dans un instant, comme chaque jour, Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la CCI qui va encore faire des merveille avec ses conseils.
Bonjour Manuel Dupertuis.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Les Autrement Dit. Votre projet à vous, c'est l'apprentissage par le jeu. Votre objectif, c'est de préparer les élèves et les étudiants. Vous avez 43 ans, vous êtes poitevin. Ce n'est pas votre premier jeu de société que vous créez, c'est votre passion, les jeux de société.
Exactement.
Mais depuis la période Covid, vous vous êtes spécifiquement dirigé vers le milieu de l'éducation. Donc Les Autrement Dit, c'est quoi les détails de votre pitch? C'est parti, vous avez une minute.
Donc nous avons créé la société Les Autrement Dit sur Poitiers en janvier 2020 avec mon associé Damien Joulin. Nous créons et éditons des jeux pour l'éducation des 11-23 ans, mais aussi pour l'entreprise. Il y a à peu près un an, au lycée Kyoto à Poitiers, nous avons créé un atelier jeu pour les BTS et les bacs pro pour les préparer aux entretiens de recrutement, de stage, de premier emploi, d'apprentissage. Et finalement, c'était des thématiques qui se rapprochaient énormément des besoins pour le grand oral du bac. Donc on a créé dans la foulée le Big O, qui est le jeu de préparation au grand oral du bac, qui se joue en deux phases. Il y a la battle et l'alliance à deux. Brick, qui va construire son parcours et puis travailler ses questions de spécialité. Et Braque, derrière, qui va le défier dans un premier temps et le coacher ensuite. Et puis depuis quelques temps, depuis quelques semaines et ce pour une durée de 9 mois, nous créons en partenariat avec Sciences Po Paris, le campus de Poitiers, un jeu sur l'engagement citoyen.
Et ben voilà, super, bravo, ça coûte combien pour le moment? Vous les offrez, vous les...
19,90.
19,90, voilà, parce qu'on n'avait pas le prix.
Gagnez votre vie quand même.
C'est normal, oui.
C'est tout à fait normal.
C'est comme ça que ça marche. Les
Manuel, je vous présente Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Manuel, bonjour Emmanuel.
Coucou.
Bonjour.
Nathalie, vous avez analysé le projet des Autrement Dit. Quelles sont les forces et les faiblesses?
Les forces, d'abord, faire pour apprendre, réaliser que c'est possible et donc prendre confiance en soi, c'est juste fondamental. Et c'est vrai que l'oral du bac met nos lycéens dans une situation peu commune, mais finalement, c'est une situation qu'ils vont rencontrer des dizaines de fois dans leur vie, quelle que soit leur voie professionnelle. Donc, l'entraînement est salutaire. Puis, ce qui est bien, c'est le fait de pouvoir jouer en dehors du lycée. Ça donne donc à tous les lycéens la possibilité de s'exercer, même si le lycée ne propose pas ce jeu. Alors, le point amélioré, majoritairement, c'est le site. En fait, il y a beaucoup de choses. On sent la sédimentation des offres. Évidemment, pour le moment, ça serait probablement un peu compliqué de créer deux sites, mais ça serait idéal parce que vous avez une offre entreprise qui est assez différente de votre offre enseignement, même si les fondamentaux sont les mêmes, c'est le jeu, mais le mélange peut nuire au référencement web et à la visibilité de vos offres. Puis si on se concentre sur la présentation du jeu du grand oral, pour plus de clarté, vous pourriez diviser la page en trois parties. 1. L'explication détaillée du jeu avec le mode d'emploi, des images, des vidéos. 2. Comment on y joue quand on est prof dans un lycée, avec des témoignages de profs par exemple, parce qu'en fait, il faut les convaincre. Et puis 3. Comment on y joue en famille. Il faut rassurer le prof ou les parents sur leur capacité à animer le jeu facilement, voire pour les parents à jouer avec leur ado, qui a sûrement une majorité de familles avec un seul lycéen concerné. Puis d'ailleurs, peut-être que le collégien qui prépare l'oral du brevet, ou la cousine qui prépare son oral d'entrée en études supérieures, ou l'oncle qui a un entretien de recrutement, pourrait aussi jouer, donc expliquer pragmatiquement comment on joue chez soi, donc toujours pour rassurer et donc convaincre d'acheter. Expliquer aussi comment et pourquoi on apprend aussi bien par le jeu, c'est pas naturel pour tous les parents, en renvoyant vers des articles de votre blog, en faisant parler des chercheurs, en donnant des résultats concrets apportés par les lycéens eux-mêmes, parce qu'ils peuvent devenir des prescripteurs auprès de leurs profs et de leurs parents.
Mais vous y avez joué, Nathalie, c'est pas possible.
Mais moi, je suis fan de la pédagogie et de tout du, et apprendre en faisant, donc voilà, j'adore.
Ça s'entend, ça s'entend. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, Manuel, à tout, tout très bon conseil de Nathalie?
C'est tous ces bons conseils. C'est vrai que sur, par rapport au site internet, on a encore, on sait du travail à faire. Mais c'est vrai qu'on avance dans pas mal d'activités en même temps et on essaie d'actualiser au fur et à mesure. Donc là, on est sur une restructuration du site actuellement. Moi, j'ai noté des choses aussi différentes. On est aussi sur des projets d'orientation, ça, on ne l'a pas dit, de la cinquième à la troisième pour l'instant. Donc le besoin sur la troisième, on l'a bien identifié. J'avais mon fils qui était en troisième l'an dernier au niveau du grand oral, enfin de l'oral du brevet. On est en train de travailler dessus.
Jean-Michel Blanquer, vous êtes ministre de l'Éducation, vous avez dirigé l'ESSEC. On vous aurait présenté ça comme pitch à l'ESSEC. Vous auriez dit, c'est bon, on en crée une micro-entreprise ?
Ah oui, je trouve ça vraiment excellent. Le jeu, c'est une caractéristique essentielle de l'être humain. C'est comme le rire, la musique, c'est des choses, c'est la vie tout simplement. Donc le jeu doit être pris très au sérieux, comme d'ailleurs le rire et la musique. Et donc ça signifie que on doit considérer déjà dès le plus jeune âge, c'est fondamental. On le sait très bien pour l'épanouissement de l'enfant et que ça a des vertus pédagogiques évidentes. Il y a des jeux mathématiques que nous encourageons actuellement à l'école primaire. Et puis l'idée de toujours se poser la question de comment je transforme une activité en jeu est une très très bonne idée parce qu'elle permet de prendre du recul par rapport à l'activité. On le voit pour le grand oral du baccalauréat. Et puis, si vous voulez, l'éducation, c'est à la fois de l'effort et du plaisir. Et le jeu, ça peut être et de l'effort et du plaisir. D'ailleurs.
Donc vous validez complètement, Jean-Michel.
Donc vous allez lui donner un petit coup de main parce qu'il a besoin de sortir un peu de Poitiers.
Ouais, hein. Sans aucun problème. Encore une fois, on veut promouvoir cette dimension-là. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le temps scolaire de l'enfant, mais aussi le temps extrascolaire.
On apprend des tas de choses.
On apprend plein de choses par le jeu.
Évidemment. Ça s'appelle les autrement dit. Merci à vous, Manuel Dupertuis, d'être venu. Enfin, c'est nous qui sommes venus chez vous, puisque nous sommes à Poitiers. Merci d'être dans la France Bouge aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Et Nathalie Carré, on vous retrouve dès lundi. Si vous aussi, vous voulez présenter comme ça votre projet d'entreprise, il y a une seule adresse mail, le1-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous pourrez peut-être comme ça faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir européen. La France Bouge.
Allez, suite et fin de votre émission, Jean-Michel Blanquer, vous êtes notre invité exceptionnel, vous restez encore avec nous quelques minutes ?
Mais oui, volontiers.
On continue.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, comme chaque jour, ça passe trop vite. Déjà, dernière partie de votre émission avec notre invité exceptionnel à l'occasion des rencontres école-entreprise ici à Poitiers, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation.
Allez, une petite question d'actualité, si vous le voulez bien, Jean-Michel Blanquer. Il y a Éric Zemmour qui était l'invité de Laurence Ferrari cette semaine sur Europe 1, qui n'a pas eu des mots très tendres envers vous, notamment en faisant allusion au texte destiné à mieux accompagner les transitions de genre en milieu scolaire. Il vous a même comparé au docteur Nasi, au docteur Mengele. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à Éric Zemmour, Jean-Michel Blanquer?
D'abord que ce qui est excessif est dérisoire et la comparaison que vous venez de dire ne mérite même pas une réponse tellement elle est absurde et évidemment dégradante pour celui qui la formule. Mais surtout, on voit bien qu'il est entré en campagne et que du coup la caricature et le mensonge ne les feraient pas. Ce qu'il a dit est totalement faux sur cette circulaire. Ce qui inspire tout ce que je fais sur ce cas comme sur d'autres, c'est toujours l'enfant. L'intérêt de l'enfant. C'est pour l'intérêt de l'enfant qu'on a maintenu les écoles ouvertes, c'est pour l'intérêt de l'élève qu'on fait ce que l'on fait pour l'orientation. Et de la même façon, tout enfant, quelle que soit son orientation sexuelle, doit évidemment, et tout adolescent surtout, se sentir bien à l'école. La circulaire ne dit que ça. Et par rapport à toutes les dérives qu'il signale, et qui effectivement peuvent être vues comme un danger, qui parfois existent dans certains pays, par exemple, pousser un adolescent à des choses irréversibles en la matière, c'est précisément ce que cette circulaire permet d'éviter en disant que le sujet n'est pas celui-là. Le sujet n'est pas d'avoir une course à l'identité sexuelle. Le sujet, c'est que tout le monde se sente égal et bien dans un établissement scolaire. Donc il suffit de lire cette circulaire pour comprendre que M. Zemmour a dit n'importe quoi. Simplement, ça enflamme les esprits, ça divise la société pour rien, ça insulte, en l'occurrence, ça insulte votre serviteur. C'est dommage, je pense que son cerveau mérite mieux que ça. Mais en tout cas, je pense qu'on doit éviter dans cette campagne de rentrer dans ce genre de polémiques qui finalement sont très malsaines parce qu'on fait croire aux gens des choses qui n'existent pas. Encore une fois, sa méthode, on la voit bien là. Elle consiste à pointer un problème qui existe bel et bien, hein, des dérives qui existent ailleurs, je suis le premier à le dire, mais de faire comme si c'était ce que nous faisions et comme si c'était une réalité générale. Et ça, c'est évidemment très dangereux.
Autre proposition de campagne, cette fois de l'autre côté, Anne Hidalgo, elle veut doubler le salaire des profs. Vous dites chiche ?
Non, j'ai dit foire du trône de la démagogie, et je le répète, c'est-à-dire, on ne peut pas dire... finalement moins grave d'une certaine façon que le point précédent, mais c'est grave quand même parce que en fait c'est impossible, infaisable. C'est...
Mais ça pose une question intéressante, la peut... revalorisation des profs, parce que beaucoup de jeunes, on parle d'orientation ici à Poitiers, mais ne veulent pas aller profs parce que c'est pas attractif.
Alors ce qui est vrai, c'est que la tendance de cette proposition, je la partage, c'est-à-dire il faut augmenter la rémunération des professeurs. Et d'ailleurs c'est ce que nous avons commencé à faire, et ça va se passer progressivement, je l'espère, au cours des 5 à 7 prochaines années. Ça dépend évidemment aussi du gouvernement qu'il y aura après 2022, mais en tout cas, si nous devions être en responsabilité, c'est évidemment un engagement que nous prendrons, parce que nous l'avons déjà...
De combien ? Réussir de combien ?
Chaque année, nous avons... l'objectif, c'est d'avoir environ 500 millions d'euros en plus. Cette année, c'est même 700 pour commencer par revaloriser les jeunes enseignants. Donc l'objectif à assez court terme, c'est pas un seul professeur débutant et après, évidemment, en dessous de 2000 euros par mois. Et puis, au-delà de ça, il y a tous les enjeux de bien-être professionnel, les enjeux de carrière. Il y a 12 engagements que j'ai pris dans le cadre du Grenelle de l'éducation qui tournent autour de ces sujets. Comment mieux personnaliser le parcours du professeur ? Comment travailler plus en équipe ? Comment se sentir bien, là aussi, dans son métier ? Et donc, ces engagements, je les ai pris. Nous commençons à les faire avancer. Par exemple, nous sommes en train de créer l'équivalent d'un comité d'entreprise pour l'éducation nationale. Et donc, l'attractivité du métier de professeur, j'y crois beaucoup. Et d'ailleurs, c'est parfois une réalité que l'on voit sur le terrain.
Donc, des engagements du côté de l'élève, de l'étudiant et des engagements du côté des enseignants. Merci à vous, Jean-Michel Blanquer. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge.
Et lundi, on sera avec le patron de Boursorama. On parlera banque en ligne dans cette émission de La France Bouge.
Allez, à lundi, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.